Bonsoir. La RDC va organiser le Forum AGOA 2025 en juillet 2025 à Kinshasa. Cette décision a été prise mercredi 24 juillet à l'issue de la réunion des ministres du commerce extérieur africain éligibles à l'AGOA. Tenu à Washington, aux États-Unis d'Amérique. L'AGOA est une loi américaine qui permet que tous les produits qui viennent de l'Afrique subsaharienne accèdent au marché des États-Unis sans paiement des frais de douane. Julien Paluku, ministre congolais du commerce extérieur, considère la désignation de Kinshasa pour accueillir la prochaine réunion de l'AGOA comme une victoire diplomatique du président de la République, Félix Tshisekedi. Justement, pour parler de ce forum, Julien Paluku, ministre du commerce extérieur, est avec nous dans ce studio pour nous en dire un peu plus quels pourraient être les avantages pour la RDC d'abriter ce forum. Monsieur le ministre, bonsoir.
Oui, bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs de la radio Capi que je retrouve en direct depuis quelques mois.
Plusieurs autres questions seront abordées dans ce spécial dialogue entre Congolais, notamment les réalisations en cours et celles envisagées par le ministre du Commerce extérieur dans son secteur pour protéger l'industrie locale dans le respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce. À Goma, en Nord-Kivu, vous nous suivez sous la 95.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net, sur DSTV, canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, actualité oblige, la RDC va organiser le Forum AGOA 2025 en juillet 2025 à Kinshasa. Cette décision a été prise mercredi 24 juillet à l'issue de la réunion des ministres du commerce africain éligibles à l'AGOA tenue à Washington aux États-Unis d'Amérique. Juste à titre de rappel, l'AGOA est une loi, c'est une loi américaine qui permet que tous les produits qui viennent de l'Afrique subsaharienne accèdent au marché des États-Unis sans payer des frais de douane. Monsieur le ministre Julien Paluku, pourquoi la RDC tient ou veut que ce forum se fasse ou se passe en RDC en juillet 2025?
Oui, mais merci madame. Comme vous l'avez si bien introduit, la AGOA c'est une loi qui est votée par le Congrès américain et qui visait deux objectifs. Le premier, c'était de permettre au peuple américain d'accéder à des produits qui sont produits, si vous permettez la tautologie, de l'Afrique et qui sont bio, parce que vous savez, les États-Unis, l'Europe sont déjà fatigués avec les OGM, c'est-à-dire les organismes génétiquement modifiés. Maintenant que l'Afrique, elle, ne recourt pas encore à ces méthodes, eh bien, elle produit des biens qui sont bio et qui sont bons pour la santé. Et donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, c'était de permettre aux économies africaines, en fait, de se structurer. Parce que les États-Unis ont compris effectivement que beaucoup d'économies africaines étaient en souffrance et c'est la raison pour laquelle ils ont permis que des biens accèdent sur les territoires américains sans payer des frais de douane. Ça permet au patronat de chaque pays africain, c'est-à-dire les opérateurs économiques, de s'investir dans des secteurs qui en fait changent les économies des pays africains parce qu'ils savent qu'ils peuvent accéder facilement au marché américain. Et donc pour nous, la RDC, nous avions accédé à cette loi américaine à l'an 2003. Et nous avons été exclus en 2010 par l'administration Obama parce que tout simplement l'administration américaine avait estimé que la RDC violait un certain nombre d'instruments internationaux, ce qui ne nous permettait pas de continuer à bénéficier de ces avantages. Ce n'est qu'en 2020, lors de l'alternance, que les États-Unis ont compris qu'il y a une stabilité démocratique, il y a des avancées démocratiques, qu'on a été réadmis de nouveau. Et donc ça fait 4 ans que la RDC est réadmise de nouveau dans cette loi AGOA, ce qui incite les opérateurs économiques congolais désormais à migrer vers les États-Unis avec leurs produits made in Congo, ce qui accroît en fait les volumes des échanges, parce que les pics que nous avons eu en 2010, je crois, lorsque nous étions encore admis sous ce régime, nous avions atteint les volumes des échanges entre nous et les États-Unis autour de 623 millions de dollars. Mais quand on a été exclu, on est retombé jusqu'à 32 millions de dollars. Maintenant qu'on a repris, le volume des échanges entre nous et les États-Unis redécolle de nouveau et on est autour de 260 millions de dollars. Alors l'objectif de la RDC, c'est de permettre que les échanges entre la RDC et les États-Unis atteignent d'ici 2025, 2026, 2027, 3 milliards de dollars. Ça veut dire quoi en termes simples, parce qu'on veut parler en termes économiques, c'est que lorsque nous amenons nos produits vers les États-Unis et qu'en retour nous avons 3 milliards de dollars sur les échanges que nous avons, ces montants-là permettent de soutenir notre économie, ils permettent de soutenir même notre monnaie, ça nous évite les fluctuations monétaires, parce qu'en fait, notre économie est dominée par des importations. Or, qui dit importation, dit sortie de devises vers l'extérieur. Par contre, qui dit exportation, dit retour des devises vers l'intérieur du pays, ce qui soutient totalement l'économie. Voilà, plus ou moins, en bref, ce que je peux expliquer en des termes simples et clairs.
Vous parlez des produits de la RDC qui vont aller vers les États-Unis. De quels produits parlez-vous, monsieur le ministre, lorsqu'on sait que l'industrie locale est quasi inexistante? Est-ce que la RDC ne risque-t-elle pas d'être plutôt un grand marché pour les autres, pays? Et qu'est-ce qu'elle, pensez-vous qu'elle va tirer quelque chose en retour? Elle va gagner quelque chose en retour?
Oui, je voudrais ici préciser que la loi américaine donne des préférences unilatérales, c'est-à-dire ce ne sont que les pays africains, dont la RDC, qui exportent vers les États-Unis sans paiement des frais de douane, mais il ne s'agit pas d'avoir ou de recevoir les produits américains sur le territoire congolais sans paiement des frais de douane. C'est une précision de taille. Donc c'est nous, en fait, qui bénéficions de cette facilité américaine. Alors, quels sont les produits qui sont concernés? Nous avons fait adopter à Conseil des ministres la stratégie nationale AGOA parce que les États-Unis ont donné une liste de près de 6000 produits qui sont concernés par ces facilités d'exemption des paiements des douanes. Mais nous avons commencé par 26 filières parce qu'on ne peut pas embrasser les tout à la fois. Dans 21 filières qui relèvent du secteur agroalimentaire et 5 filières qui relèvent du secteur minier. Parmi les secteurs agroalimentaires ou d'agriculture, il y a les produits pérennes comme le café, comme le cacao, mais on y a ajouté maintenant d'autres types de produits, qu'il s'agisse d'ananas, qu'il s'agisse d'avocats, qu'il s'agisse de gingembre, qu'il s'agisse de piments, qu'il s'agisse de poivres, tout cela sont concernés. Maintenant, les gens se disent, mais maintenant comment on va faire? En fait, l'État crée ce cadre-là pour inciter les Congolais désormais à revenir aux fondamentaux de toutes les économies du monde, à savoir l'agriculture. Quand on sait qu'on peut produire autant de tonnes de piments, autant de tonnes de maïs, autant de tonnes de poissons, autant de tonnes de viande, autant de tonnes de café, autant de tonnes de cacao, et qu'on a un marché sûr que le gouvernement a prêté à travers son admission dans cette loi américaine qui est l'AGOA, eh bien, ça rassure les opérateurs économiques désormais.
Mais le gouvernement n'accompagne pas ces opérateurs économiques parce qu'ils sont plaignants. Ils n'ont pas l'accompagnement du gouvernement.
Effectivement, lorsque j'ai présenté la stratégie AGOA-RDC au niveau du gouvernement, il y a des mesures d'accompagnement des opérateurs économiques locaux. Si les États-Unis acceptent que les produits entrent sur leur territoire sans paiement des frais, eh bien, pourquoi la RDC ne le fera-t-il pas aussi pour permettre à ces opérateurs économiques d'accéder à des conditions qui leur facilitent de pouvoir commencer le travail? Déjà, je dois annoncer que peut-être les gens l'ignorent, lorsqu'il s'agit de produits qui relèvent du secteur agricole, à savoir les équipements, les matériels aratoires, les tracteurs, les semences, tous les intrants qui entrent dans l'écosystème agricole sont exonérés par l'État congolais. Beaucoup de gens sont dans les mines, beaucoup de gens sont dans l'immobilier, mais ils ne savent pas que le meilleur commerce actuellement, c'est l'agriculture. Et le gouvernement congolais a déjà donné des exemptions pour tout opérateur économique qui veut s'installer. Bien évidemment, il y a d'autres difficultés. Les gens se disent, mais vous allez promouvoir cela, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, comment on va faire? Tout ça.
Il y a aussi des problèmes sécuritaires.
Il y a aussi des problèmes sécuritaires, bien entendu. Mais tout, on ne peut pas s'arrêter de réfléchir et de planifier parce qu'il y a des problèmes. Moi, je considère des problèmes comme des opportunités à saisir par le gouvernement pour devoir les adresser ou pour devoir les attaquer. Mais nous jetons la RDC sur les rails, sur la trajectoire
qui lui permettra demain de rassurer ses compatriotes que au moins le pays crée des cadres qui permettent à chacun de se retrouver selon les choix qu'il peut opérer dans un secteur ou dans un autre.
Et ces exportations vont commencer quand, monsieur le ministre?
Les exportations ont déjà commencé. Lorsque je vous dis que nous avions atteint 623 millions vers les années 2010 entre nous et les États-Unis et que nous sommes retombés à 32 millions avant notre réadmission, ça veut dire qu'il y a des exportations. Mais je dois avouer que la plupart des exportations concernaient le secteur minier, notamment les cuivres et la tantale, c'est-à-dire les coltans qui venaient de l'est du pays. Mais lorsque vous voyez...
C'est insignifiant
aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons voulu parler à la face du monde, et particulièrement aux Congolais, de l'existence de cette facilité américaine, de cette préférence américaine, pour que les gens comprennent qu'il y a un marché déjà sûr au niveau du territoire américain et que les gens qui hésitaient à revenir à l'agriculture sachent que le gouvernement a listé 26 filières qui sont concernées par les échanges entre nous et les États-Unis et que désormais les gens peuvent commencer chacun à le faire, moi-même y compris. Je dois annoncer que je suis déjà dans le cacao personnellement. J'ai 100 hectares par lesquels j'ai commencé et je sais que la production à l'hectare c'est 3 tonnes. Donc lorsque je vais commencer la récolte moi-même, je vais avoir 100 hectares fois 3 tonnes, ça veut dire autour de 300 tonnes. Or vous savez qu'une tonne de cacao aujourd'hui nous coûte 10 000 dollars. La tonne de cacao est déjà coûte déjà plus cher que la tonne de cuivre. Le cuivre est situé entre 8 000 et 9 000 dollars la tonne, alors que la tonne de cacao est arrivé à 10 000 dollars. Donc, les gens doivent comprendre que l'investissement dans le secteur agricole peut procurer autant de moyens financiers comme les secteurs miniers.
Alors, monsieur le ministre, il y a Samuel qui nous écrit depuis Lubumbashi. Il veut savoir quels avantages les RDC pourraient-elle tirer en organisant ce forum, sachant qu'on n'exporte rien, on importe tout, même l'électricité aujourd'hui.
Oui, les avantages sont nombreux. Le premier, c'est d'abord l'image du pays. Quand nous étions au département d'État, on a été reçu par madame l'ambassadeur Catherine Tai, qui est la représentante américaine en charge du commerce et de l'industrie dans le gouvernement Biden, qui nous a dit effectivement que lorsqu'on organise un forum dans un pays, comme ça sera le cas à Goa, ici à Kinshasa, c'est d'abord rassurer les opérateurs économiques américains que ce pays est déjà fréquentable. Parce que lorsque les gens vont arriver ici, ça montre que la RDC est fréquentable. Et c'est parmi les arguments que j'ai pu relever lorsque j'ai convaincu mes pères et tous les Américains pour qu'ils viennent ici. Alors, lorsque la Chambre de commerce nous a reçus, nous avons donné un certain nombre d'opportunités dans le secteur agricole, dans le secteur des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, énergétiques, pour voir comment la RDC peut en fait faire l'objet d'un plan semblable au plan Marshall que les États-Unis avaient conçu pour reconstruire l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, et que chacun des opérateurs économiques américains peut se retrouver dans les opportunités que la RDC a définies. Et cette Chambre de commerce nous a rassurés qu'elle sera présente à travers les différents acteurs américains pour venir voir exactement ce que la RDC, parce que sur le territoire américain, la RDC était présentée comme un pays qui ne peut pas être fréquenté. Et c'est à la suite de l'argumentaire présenté en 5 points qu'effectivement, tout le monde a été convaincu qu'il était important, au regard du profil économique de la RDC, qu'il était important que les gens viennent. Donc, ça c'est le premier grand avantage, le fait de soigner l'image de la RDC, de permettre que les gens arrivent, de constater qu'il y a des opportunités dans ces pays qui peuvent faire l'objet des échanges entre nous et les Américains. Et si les investisseurs américains choisissent les filières telles que je viens de les développer tout à l'heure, eh bien, ça va procurer de l'emploi ici, ça va procurer des richesses, et quand on va commencer les exportations, ça va renforcer notre balance commerciale, c'est-à-dire la différence entre les importations et les exportations. Lorsque les exportations vont être plus élevées que les importations, ça va nous ramener suffisamment de devises et ça va même influencer notre taux d'échange pour lequel les gens crient
Vous parlez des devises, il y a Vassi Clotti qui nous suit depuis la page Facebook de Radio Capi. Julien Paloukou parle trop des milliards, mais quel genre d'industrie avons-nous? Quelle politique avons-nous avec toutes les tracasseries dans les secteurs économiques?
Oui, je parle de trop de milliards parce qu'effectivement, aucun pays ne se développe pas en termes de millions.
Le pays ne peut se développer qu'en termes de milliards. Lorsque j'étais ministre de l'industrie, j'ai pu faire adopter au Conseil des ministres le plan d'industrialisation dont le coût est de 58 milliards. Quand vous voyez les États-Unis aujourd'hui parler de l'Ukraine, parler de l'Israël, les États-Unis ont sorti 95 milliards pour tout simplement soutenir la guerre en Ukraine et en Israël. C'est 95 milliards. Mais moi, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que les gens pensent que quand je parle de 50 milliards, c'est beaucoup d'argent? Vous savez qu'un kilomètre de route nous coûte 1 million de dollars. Un kilomètre de route asphaltée. Alors, nous avons un réseau prioritaire de 58 000 kilomètres de route. Si donc on doit seulement construire les 58 000 kilomètres de route, c'est 58 milliards de dollars. Si on doit construire Inga, les barrages Inga, et nous produire autour de 11 000 mégawatts, ça nous coûte 13,9 milliards de dollars. Si on doit y ajouter les réseaux de transport d'électricité, on est à 20 milliards de dollars. Donc le peuple congolais doit commencer à s'habituer à ce genre d'exercice. C'est pourquoi j'ai toujours été convaincu qu'un budget minable de la RDC, comme celui de 10 milliards en ressources propres, 17 milliards, y compris les appuis budgétaires, ne peut pas aider à développer les pays. Parce que j'ai consulté le budget du FBI. FBI, c'est la police judiciaire américaine qui s'occupe des renseignements intérieurs. Ce budget est de 11 milliards pour un service comme notre police. Et donc, vous comprenez que nous ne pouvons pas nous comparer à un pays comme les États-Unis, dont un service a un budget de 11 milliards. Alors que nous, l'ensemble de la République, nous avons un budget de 10 milliards.
Mais la préoccupation de cet auditeur, avec quelle industrie, quelle politique, avec toutes les tracasseries que nous rencontrons dans le secteur économique?
Bon, les gens doivent cesser de s'autoflageller, de dire que ça ne marche pas, de dire qu'il n'y a pas d'industrie.
Mais c'est un constat.
C'est un constat, mais il y a des choses qui marchent. Est-ce que savez-vous aujourd'hui que dans ces pays, nous avons commencé, par exemple, à transformer notre cuivre et produire des câbles électriques? Je vais surprendre beaucoup d'auditeurs que quand j'inaugurai à son temps l'usine de fabrication de câbles électriques à Lubumbashi, eh bien, il y avait des demandes d'exportation de câbles électriques au niveau de la Zambie, de la Tanzanie, du Kenya et de tous les produits de l'Afrique australe, qu'il s'agisse du Malawi, de la Namibie, etc. Mais la douane congolaise n'avait pas de code pour exporter nos câbles électriques. Il a fallu inventer un code parce que les pays n'étaient pas tenus à exporter les câbles électriques. Est-ce que savez-vous aujourd'hui, maintenant, que nous commençons à produire les carreaux et les faïences à Kinshasa, qui sont maintenant exportés vers le Congo-Brazzaville? Est-ce que savez-vous aujourd'hui que la RDC commence maintenant à produire les Pepsi que tous les jeunes gens suivent sur Canal Plus lorsqu'il y a des publicités des grands joueurs de ce monde? Donc, on a commencé quelque part. La République est déjà sur la bonne voie. Au niveau, par exemple, de l'Est, il y a le café et le cacao. Je viens de Washington. J'ai goûté du café made in DRC. Et donc, on n'a pas encore atteint l'étape et des États-Unis et de l'Europe pour la simple raison que les États-Unis sont à 248 ans d'indépendance, la RDC n'est qu'à 64 ans d'indépendance, et nous demander à courir à la même vitesse que les États-Unis, c'est nous amener à éclater. J'ai fini par un petit exemple. J'aime aussi l'athlétisme. Usain Bolt a gagné le grand marathon de 100 mètres. Il a gagné à 9 secondes, je crois, 9 secondes 66 centimes. Lui, c'est parce qu'il a fait beaucoup d'entraînement. Si vous engagez quelqu'un comme moi à aller faire les 100 mètres comme Usain Bolt, il va craquer tout de suite parce qu'il n'est pas prêt à faire ce marathon. C'est de la même manière que les pays se développent. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, ils ont fait autant d'années pour atteindre les niveaux qu'ils ont. D'ailleurs, toutes les cotations qu'on fait sur les pays africains, moi, je les nie. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas nous coter au même pied d'égalité que les États-Unis, au même pied d'égalité que la France. Toutes ces maisons de cotation qui disent nous sommes 180e, 150e, et dire que les États-Unis sont 20e, 126e, moi, je renonce à tout ça.
Ça fait 64 ans que nous sommes indépendants, monsieur le ministre, mais on t'attend toujours. Hein?
Bon, moi, je ne pense pas qu'on t'attende, sinon je ne serais pas venu vous parler de toutes ces réalisations qui sont faites. Ce n'est pas encore assez, la population ne voit pas encore beaucoup. Mais la profession ne veut pas dire qu'elle ne voit pas. Vous savez, quand on politise les débats économiques, c'est là où ça fausse les données. Je ne peux pas dire
que dans ces pays, rien n'a jamais été fait. Mais je dois reconnaître que tout ce que le peuple veut voir ne s'est pas encore produit.
Merci. Alors, il y a Moussa Ramina Isaac qui nous suit depuis Goma, je pense. Comment notre pays va pouvoir exporter les produits made in Congo ailleurs au moment où, chaque jour, à la frontière de Kamanyola, Ruzizi 1 et 2, Gisenyi et Butare, sans pour autant parler des frontières de la Tanzanie, de l'Ouganda, c'est la RDC qui est le dépotoir des produits OGM de l'étranger?
Oui, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour répondre à la question, j'ai pris une série de mesures pour essayer un peu de restreindre les importations envers la RDC, parce que quand vous suivez même certains responsables au niveau de la région, ils se moquent de la RDC, ces pays-là, on ne travaille pas, on s'habille jusqu'au-dessus du nombril, ces pays-là, on ne produit rien. Maintenant que, au nom du gouvernement, j'ai pris des mesures pour restreindre les entrées en RDC, ce sont ces mêmes pays qui commencent à pleurnicher. L'objectif que j'ai eu en prenant ces mesures, c'est effectivement de protéger la petite industrie locale qui commence à naître.
Alors, on va revenir sur vos mesures, monsieur le ministre, dans la deuxième partie de cette émission. Le temps pour nous d'ouvrir notre standard pour prendre ces auditeurs qui sont très très nombreux à nous appeler. Il y a un auditeur, on me signale qu'il y a un auditeur de Bukavu qui est en ligne. Est-ce qu'on peut l'écouter?
Moi, c'est Gabriel Ekolanga depuis Bukavu au Sud-Kivu. C'est vraiment encourageant que notre pays organise ce grand forum économique en 2025. Mais moi, ma question est celle de savoir qu'est-ce que la RDC gagnerait en organisant ce forum, tout en sachant que nous n'exportons rien à l'étranger qui pourra constituer pour nous une force majeure dans cette organisation. En quoi est-ce que nous sommes gagnants ou acteurs majeurs dans cette organisation, au moment où dans le commerce extérieur, on ne peut que gagner que quand vous avez une production à l'interne, pouvant vous faciliter à gagner aussi des devises à l'étranger. Ce forum risquerait d'être juste un bruit médiatique et constituer une dépense au trésor public, comme c'était le cas de la francophonie.
Alors, vous répondez à la question ou bien on prend la deuxième, parce qu'ils sont très nombreux qui attendent
ils peuvent
en
poser,
ligne.
Je vais
alors, on va prendre la deuxième question et puis vous allez y répondre. L'auditeur
Moïse
de Goma.
Moïse Angui, depuis la ville de Goma, en province du Nord Kivu, à l'est du pays. Tout en félicitant le ministre national actuel du commerce extérieur pour son dynamisme, j'aimerais, au regard du climat des affaires qui prévaut ces derniers temps au pays, caractérisé par une faible production au niveau local, demander ce que nous envisageons apporter en tant que République démocratique du Congo au sein de ce forum dit AGOA 25, qui se tiendra certainement dans la ville province de Kinshasa. Quelle est la valeur ajoutée que nous comptons apporter à partir du moment où l'industrie locale est extrêmement faible, si pas quasi inexistante? Ne courons-nous pas le risque d'être plutôt un grand marché pour nos partenaires et que de retour nous ne puissions rien gagner en tant que République démocratique du Congo? Peut-on en outre avoir une idée sur l'agenda du ministre des Affaires étrangères qui va nous représenter à ses assises? Comment comptait-il convaincre les parties prenantes à venir investir au Congo avec cette situation sécuritaire incertaine qui prévaut un peu partout à travers la République, très particulièrement l'est du pays, qui est en proie à l'agression étrangère rwandaise et ougandaise? Merci.
Alors, c'est plusieurs questions pour vous, monsieur le ministre. Je vais vous laisser répondre. Commencez par la préoccupation de Gabriel de Bukavu Sud-Kivu.
Oui, je voudrais remercier monsieur Gabriel Kualanga, je crois que c'est ça le nom, et monsieur Moïse Angui de Goma, en fait, qui reviennent sur les préoccupations auxquelles j'ai déjà presque apporté des éléments de réponse pour dire, mais on va faire des dépenses. En fait, moi, je crois que le peuple congolais devra comprendre qu'un État ne fonctionne pas comme une famille. Je l'ai dit souvent, quand les gens apprennent que l'État pour un forum a dépassé 500 000 ou 1 million, les gens se disent, mais ça sert à quoi de faire venir les gens? Vous savez, tous les autres pays que vous connaissez, dont j'étais les noms, ont réussi à attirer des investissements, tout simplement parce qu'ils ont réussi à soigner l'image du pays face au monde. Lorsque j'étais à Washington, j'ai fait une conférence de presse au centre de presse américain, Et j'ai cru comprendre que l'image que se font les gens de la RDC est tellement négative que personne ne peut venir dans ce pays investir même ces 1000 dollars. Alors, le fait régulièrement de parler du pays, de parler des opportunités, de parler du climat des affaires, de faire venir les gens pour voir, eh bien, cela attire des investissements. Il n'y a aucun pays au monde qui peut se développer en vase clos. Je prends l'exemple de la Chine. Si la Chine est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est à cause des investissements directs étrangers. C'est pas la bonne foi de la Chine, c'est pas l'intelligence de la Chine qui fait qu'elle soit une grande puissance. C'est parce qu'il y a des investissements directs étrangers en destination de la Chine qui ont changé la structure économique. Et à cela, évidemment, ça s'agit de la gouvernance interne qui doit accompagner ces investissements. Donc, les forums comme celui-ci va permettre, par exemple, à la Chambre des commerces qui réunit tous les opérateurs économiques américains de venir à Kinshasa et nous prévoyons même faire des tours sur l'ensemble de la République. C'est-à-dire, on arrive à Lubumbashi, on arrive à Goma, on arrive à Matadi, on arrive à l'Équateur, ils voient.
Dans les grandes villes.
Ils voient. Parce que quand nous disons, nous avons 80 millions d'hectares de terres arables, quelqu'un se dit, mais est-ce que c'est possible qu'un pays puisse avoir 80 millions? Les gens pensent que c'est du bluff.
Vous irez dans les grandes villes.
Non, j'ai dit, nous irons dans les profondeurs de la République démocratique du Congo. Pour permettre aux gens de comprendre que ce pays qui n'a pas de route, ce pays qui n'a pas de chemin de fer, ce pays qui n'a pas de centrale hydroélectrique, cela ne constitue pas un problème. Cela constitue une opportunité commerciale, économique à saisir. Parce qu'il y a des gens qui ont des milliards qu'ils peuvent investir sur les routes et installer des péages routes et se faire rembourser sur une concession qui leur est attribuée sur 10-15 ans. Mais ils ne savent pas le faire parce qu'ils n'ont jamais été en République démocratique du Congo. Donc pour moi, le manque de routes, le manque d'eau potable, le manque d'électricité, le manque de chemin de fer ne constitue pas un problème pour un investisseur. Ça constitue plutôt une opportunité à saisir pour investir. Et donc, je voudrais rassurer tous les intervenants tout à l'heure que l'objectif de ce forum, c'est de montrer l'autre image de la République démocratique du Congo. Et l'Afrique du Sud qui a déjà organisé, parce que l'Afrique a organisé, le Sénégal a organisé, l'Éthiopie a organisé, le Kenya a organisé, l'île Maurice a organisé. Ils ont tenté encore de redemander parce que j'étais en face à Washington de quelques pays, notamment le Nigeria, l'île Maurice, le Rwanda, la Zambie, le Bénin qui voulaient organiser. Mais l'argumentaire qui m'a été donné par les hautes autorités a convaincu tout le monde que c'est désormais la RDC qui devient la prochaine destination. Pour que nous ressemblions à ces pays-là, l'Afrique du Sud aujourd'hui est en train de commercer avec les États-Unis en milliards après avoir organisé le forum à Goa. À Pretoria.
Alors, il y a Ornicar Banza qui nous suit depuis l'Ikassi dans la province du Haut-Katanga. À quoi ça sert de vendre l'image du pays sans intérêt économique et sans produit d'exportation? Je pense que c'est un gâchis, ce genre de collaboration dont le Congolais ne bénéficieront de rien. La meilleure collaboration serait la coopération sud-sud et non nord-sud. Voilà, c'est son avis. Il nous écrit depuis l'Ikassi dans la province du Haut-Katanga. Monsieur le ministre, parlons on a suffisamment parlé de la Goa. Je sais qu'il y a des questions qui vont revenir sur ce forum, mais parlons des réalisations en cours et celles envisagées par vous dans votre secteur pour protéger l'industrie locale dans les respects des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Je sais que vous avez pris une série de mesures. On a commencé déjà à en parler tout à l'heure. C'est notamment la suspension temporaire de l'importation des bières et boissons gazeuses en RDC. Qu'est-ce qui motive cette décision?
Merci beaucoup, madame. Nous avons, au nom du gouvernement, pris une série de mesures portant restriction temporaire d'importation des bières, des boissons gazeuses, des carreaux et faïence, et de beaucoup d'autres produits. Demain, peut-être, ça sera les câbles électriques, les fers à béton, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons constaté que l'industrie locale est en train de mourir. Et la moyenne de vie de l'industrie locale congolaise est de 2 à 3 ans. C'est-à-dire lorsque quelqu'un s'installe en RDC, et 3 ans après, il ferme son entreprise. Tout simplement parce qu'il y a une concurrence déloyale. Je donne un exemple. Nous avons commencé à produire des carreaux ici dans la zone économique spéciale de Maluku. Les stocks que j'ai visités il y a quelques jours est de 2,8 millions de mètres carrés. De carreaux, s'il vous plaît. 2,8 millions de mètres carrés. Mais on assiste à quel phénomène? Les carreaux en provenance de l'étranger arrivent sur la douane. Et lorsque les opérateurs déclarent la valeur en douane, ils déclarent une valeur inférieure pour que lorsqu'on va leur appliquer les droits proportionnels, cette valeur vendue sur le marché de Kinshasa est inférieure à la valeur vendue par nos carreaux. Ça veut dire que les gens vont préférer prendre les carreaux qui viennent de l'extérieur parce qu'on a fraudé, parce qu'on a fraudé sur la valeur en douane. Et ça fait que ça tue notre industrie locale. Ça tue les emplois que cela crée. Ça tue la richesse que cela crée. Et tous les pays du monde, lorsqu'ils constatent ce phénomène qu'on appelle dumping, ils prennent ces mesures. Je prends les ciments. C'est la même chose. Je suis tombé sur une image où l'opérateur économique qui produit les carreaux à Kinshasa est allé ouvrir un dépôt en Angola. Lorsqu'il ouvre un dépôt en Angola, tout de suite la police est venue sceller les dépôts au motif que non, l'Angola produit déjà des carreaux et ce n'est pas possible que les carreaux proviennent de la RDC. Alors comment nous, dont on ferme les dépôts d'un opérateur congolais en Angola, nous allons accepter que ce même Angola puisse envoyer des centaines et des centaines de conteneurs pour tuer le marché. Alors, deux éléments sur lesquels nous comptons pour restreindre les importations, c'est un, la qualité, et deux, la quantité. La qualité, nous y veillons, parce qu'il faudrait que les carreaux qui sont produits, par exemple, à Kinshasa, soient de la même qualité que tous les carreaux qui viennent de l'extérieur. Deuxième élément, la quantité. Nous devons nous rassurer que la production locale satisfait à la demande locale. Si la production locale satisfait à la demande locale, eh bien, il n'y a pas match. Il en est de même du ciment. Ici, dans le Congo central, nous avons des usines de cimenterie qui ont la capacité de nous produire 3 millions de tonnes de ciment l'an. Alors, comment nous allons accepter que des gens s'amusent à créer des cimenteries dans les périphéries de la RDC pour viser les marchés congolais? Parce que, ils créent de l'emploi chez eux, ils créent de la richesse chez eux, leur budget augmente, mais ils veulent nous empêcher que nous, avec nos 100 millions d'habitants, nous puissions bénéficier de nos 100 millions d'habitants pour accroître notre croissance. Et donc, c'est des mesures. Je prends les bières. Nous avons la Bralima, nous avons la Bracongo, nous avons la Brasimba, qui ont de la bière pour tout le monde. Alors, l'objectif, c'est de pousser les gens à consommer congolais. Pourquoi vous voulez demander à un gouvernement de pouvoir satisfaire aux besoins et aux codes de la population quand vous encouragez que des dollars doivent sortir chaque mois pour aller acheter des produits ailleurs, créer des emplois ailleurs, créer de la richesse ailleurs et appauvrir davantage votre pays? Donc, c'est des mesures comme ça qui ont pour objectif de soutenir l'industrie locale, de soutenir les emplois qui sont créés et de permettre que des Congolais deviennent aussi des millionnaires. Quand vous voyez, par exemple, madame...
Excusez-moi de vous interrompre, monsieur le ministre. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent en direct. Il y a Blaise qui est en train de vous suivre en direct. Il se demande, il dit ceci, si les gens se tournent souvent vers les produits importés, c'est parce que ces produits coûtent moins cher par rapport à ceux qui sont produits localement. Quelle stratégie mettez-vous en place pour que les prix des produits locaux baissent sans que les entrepreneurs fassent des pertes?
Oui, je viens de vous dire vraiment la stratégie qu'utilisent les opérateurs économiques pour tuer en fait l'industrie locale. Je vous donne un exemple. Je suis tombé sur des éléments de la douane où quelqu'un importe des tracteurs, mais il déclare qu'il y a des gobelets dans les tracteurs. Ça fait quoi? Ça fait que quand on va taxer les droits proportionnels, on les taxe en fonction des gobelets, alors qu'à l'intérieur, il y a des tracteurs. Et c'est la République qui perd. Alors comment voulez-vous que ce tracteur, lorsqu'il arrive sur le terrain, il coûte plus cher que les tracteurs produits sur la RDC? Parce qu'il a bénéficié des avantages frauduleux liés à la minoration et la dénaturation du produit au niveau de la douane. Voilà pourquoi on a toujours voulu qu'il y ait des scanners au niveau des douanes. Tous les pays du monde ont pu mettre des scanners au niveau des douanes pour que l'on voie réellement ce qu'il y a. J'ai suivi une vidéo de Lubumbashi où, par exemple, quelqu'un accuse l'OCC de faire des tracasseries. Je vais vous donner l'explication. Je suis à Mahagi, où j'ai reçu les rapports, où il y a, au cours du premier semestre 2024, 5041 véhicules qui sont entrés. Mais la douane a déclaré 2000 véhicules. C'est-à-dire, les gens ont faussé ce qu'on appelle la fraude documentaire, ils ont faussé les données pour démontrer qu'il n'y a que 2000 véhicules qui sont entrés. Mais lorsque l'Office congolais de contrôle, qui a la mission de vérifier la qualité, la quantité et la conformité, tombe sur l'idée qu'il s'agit de 5000 véhicules au lieu de 2000, il fait ce qu'on appelle le redressement. Ça, c'est un exemple. Deuxième exemple, vous importez une Jeep qui coûte en Chine, à Dubaï, 50 000 $. Mais lorsque vous arrivez à la douane pour payer moins, vous déclarez que la Jeep a coûté 10 000 $. Donc vous voulez gagner sur 40 000 $. Alors qu'est-ce que l'Office des Congolais de contrôle fait? Elle recourt au bivac. Les bivacs qui vous donnent les éléments sur la facture à l'embarquement. Lorsque l'Office des Congolais de contrôle trouve que le véhicule à l'embarquement renseigne qu'il a coûté 50 000 $, il veut redresser les droits proportionnels par rapport à 50 000 et non pas par rapport à 10 000. Alors les gens crient effectivement qu'il y a une tracasserie. C'est donc des éléments de fraude comme ça qu'on est en train de constater. Et de manière pédagogique, je voudrais inviter la population. Qui veut que le gouvernement...
Pour combattre cette fraude?
Pour combattre cette fraude, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est de sensibiliser la population elle-même. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est d'installer des outils de contrôle comme les scanners pour permettre effectivement que tous les produits qui entrent sur le sol congolais ou qui sortent soient renseignés électroniquement pour que finalement les gens payent les droits proportionnels par rapport à ça.
On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis Isangi dans la province de la Tchopo.
Gaston Bilambo depuis Isangi, province de la Tchopo. L'organisation du forum AGOA en 2005 à Kinshasa est une opportunité majeure pour la RDC de renforcer ses relations commerciales avec les États-Unis et de promouvoir ses produits sur le marché américain. Cela pourrait également attirer des investissements étrangers et stimuler l'économie locale. Cependant, il est crucial de savoir comment le ministère du Commerce extérieur compte tirer de meilleures parties de cet événement et quelles mesures sont en place pour protéger l'industrie locale tout en respectant les règles de l'Organisation mondiale du commerce. D'où quelques questions pour le ministre. Quel avantage spécifique la RDC espère-t-elle obtenir en acquérant le forum AGOA en 2005, tant en termes d'économie que de développement infrastructurel? Quelle initiative concrète que le ministère a-t-il mise en œuvre pour renforcer et protéger l'industrie locale contre la concurrence étrangère? Troisième et dernière question, comment le ministère veille-t-il à ce que les politiques de protection de l'industrie locale soient conformes aux règles de l'Organisation mondiale du commerce?
Monsieur le ministre, très brièvement.
Oui, je voudrais dire que les mesures de protection sont vraiment conformes aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, parce que le libéralisme économique est le principe qui est reconnu pour tout le monde, mais le dumping, c'est-à-dire la stratégie de tuer les économies locales, est réprimé par tous les pays. Je prends l'exemple de l'Ouganda. Lorsque l'Ouganda a trouvé que le lait kenyan était en train de tuer le marché du lait en Ouganda, eh bien, il a interdit l'importation du lait à provenance du Kenya. Lorsque vous voyez l'Ouganda, par exemple, nous avons importé des poissons à partir de la Tanzanie pour arriver à Kasindi. Les véhicules à transit ont été décapotés en Ouganda parce que l'Ouganda disait si les véhicules passaient vers la RDC et que la RDC commence à accéder aux poissons, ça va tuer les marchés ougandais. Donc chaque État essaie de prendre des mesures qui protègent son industrie, même si l'Ouganda a violé le principe du commerce international parce que là, les véhicules étaient en transit. Si les véhicules provenaient de l'Ouganda, l'Ouganda pouvait les stopper. Mais tellement que les véhicules étaient en transit, ils sont couverts par la protection internationale. Donc je voudrais rassurer notre collègue pour dire qu'est-ce que les mesures concrètes que nous prenons? Un, c'est au niveau de l'Office congolais de contrôle, où nous avons réuni la direction générale pour moderniser tous les laboratoires de l'OCC. Il y a un laboratoire qui sera construit à Kinshasa, il y a un autre qui est en train d'être finalisé à Lubumbashi, il y a un autre qui sera construit dans la partie Est, pour en fait rendre nos produits compétitifs sur les marchés internationaux. Parce que si on ne respecte pas la qualité et la conformité aux normes, même si nous produisons au Congo, nos produits ne peuvent pas être consommés nulle part. Et donc, l'Office congolais de contrôle a un rôle à jouer parce que c'est lui qui doit certifier la qualité des produits que nous exportons vers l'étranger. C'est des mesures que nous sommes en train de mettre en place pour que pour augmenter la compétitivité de nos produits sur les marchés internationaux.
Banza, depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le ministre Julien Paluku n'est pas suffisamment informé quand il parle de la production des câbles électriques à Lubumbashi. Je tiens à lui dire que dans ma région du Grand Katanga, nous avons un sérieux problème de délestage du courant électrique. La base en grande partie, ce sont les conducteurs électriques et non les transformateurs, car ces derniers, les députés et autres autorités nous en donnent quand même. Alors si une telle production existe, pourquoi le problème en câble électrique persiste?
Oui, mais le producteur, lui, il fournit les câbles. C'est lui qui doit donner l'électricité aux gens, c'est la SNEL. Donc on ne peut pas dire que parce qu'il y a eu production et que les gens n'ont pas l'électricité, c'est que je suis en train de mentir. Je tiens à informer l'auditeur que j'ai visité MIS, qu'il peut visiter, et ils produisent 4200 différents types de câbles. Et la SNEL, à un moment donné, a fait une commande au niveau des protons ici à Kinshasa, et la SNEL, qui faisait 3 mois pour avoir les stocks de câbles, n'a fait qu'un mois pour avoir tous les stocks de câbles électriques. Donc il y a des câbles électriques qui existent, mais le problème de l'approvisionnement ou la disponibilité ou l'accessibilité à l'électricité ne relève pas du producteur de câbles électriques. Ça relève de l'organisme de l'État qui a en charge la fourniture d'électricité.
On va prendre cet autre auditeur, le temps file, beaucoup d'auditeurs en ligne, les internautes aussi qui n'arrêtent pas de poser des questions sur Facebook, YouTube, mais on va faire un effort de pouvoir vous satisfaire, chers auditeurs, internautes des Radio Kapi. On va prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis Kananga, dans la province du Kasaï Central.
Prince Kabamba Bouila, je suis à Kananga, précisément dans la province du Kasaï central. Je salue d'abord cette initiative et la tenue de ces assises à Kinshasa. J'aimerais juste demander à notre invité, est-ce que notre production locale a de l'influence au niveau mondial et continental? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, depuis que notre ministre est au pouvoir, où sont les initiatives qu'il a déjà faites pour l'amélioration de ce secteur? Voilà mes deux questions que j'aimerais poser à notre ministre Julien Paluku. Merci.
Monsieur le ministre.
Mais depuis que je suis au pouvoir, je n'ai qu'un mois à la tête du ministère du Commerce extérieur. Qu'est-ce qu'il veut que je dise comme résultat déjà atteint à ce niveau?
Vous n'avez encore rien fait. Vous êtes en train de...
Je ne suis qu'à un mois. Même dans un mariage, à un mois, on n'a pas encore l'enfant. Donc je crois que mon frère Kabamba dit Kananga peut s'apaiser. Ce que je lui dirais, c'est de commencer à cultiver les ananas dans l'espace Kasaï. Parce que les ananas sont concernés par les exportations vers les territoires.
Influence de la production locale au niveau mondial et continental.
Oui, c'est un pays continental. Avec nos 80 millions d'hectares de terres arables, nous allons nourrir la planète. Nous allons nourrir les États-Unis qui ont une population de 330 millions d'habitants. Nous allons nourrir l'Afrique qui a 1,3 milliard. Nous allons nourrir la Chine qui a 1,4 milliard. Et donc, moi, je crois que...
Les autorités congolaises adorent cette phrase, monsieur le ministre, juste un rappel. Tout le monde dit que le Congo va nourrir, mais quand?
Mais, même dans la Bible, on dit au commencement était la parole. Vous voulez que je ne parle pas? Parce que si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez pas une planification dans la tête, vous ne pouvez rien faire. La Bible elle-même nous renseigne qu'au commencement était la parole. Et donc, la parole que je sors permet
ça
de pouvoir
la
asseoir,
parole, malheureusement, chez nous.
Ça nous permet d'asseoir une planification. Lorsque vous m'avez vu gouverneur, je ne me suis pas limité à la parole. Lorsque vous m'avez vu ministre de l'Industrie, je ne me suis pas limité à la parole. Laissez-moi le temps comme ministre du Commerce extérieur de m'évaluer quelques années plus tard et je crois que les gens ne seront pas déçus de ce que nous allons faire à la tête de ces ministères.
Par rapport à votre décision de suspendre temporairement l'importation des bières et boissons gazeuses en RDC, il y a Madame Christelle qui nous suit depuis ma campagne ici à Kinshasa. Elle veut savoir pour les coins qui ont un accès difficile aux produits locaux et qui dépendent essentiellement des pays voisins comme l'Ouganda, le Rwanda, quel mécanisme mettez-vous en place pour éviter la rupture des stocks et la rareté des produits dans ces coins?
Oui, Madame Christelle, je dois vous rassurer que il faut bien lire l'arrêté que j'ai signé. L'arrêté dit clairement ceci, que dans les coins où on note une inaccessibilité aux produits tels que renseignés dans les dix textes, peuvent faire l'objet de dérogations. Je donne l'exemple. Vous avez le sud Kivu, où les gens prennent des l'Amstel qui viennent du Burundi. Et peut-être la Bralima de Bukavu ne sait pas parvenir à Fizi, à Kamituga et dans les fins fonds. À ce moment-là, l'opérateur économique saisit le ministre du Commerce extérieur pour qu'il bénéficie d'une dérogation, étant donné qu'il y a une carence. Donc, il y a une disposition prévue dans ce texte-là. Cela nous permet de contrôler les importations. Parce que lorsqu'il n'y a pas de suivi et de mesures comme celle-là, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui entre en République démocratique du Congo et qu'est-ce qui sort. Donc, les mesures que je suis en train de prendre me permettent de maîtriser les statistiques d'importation vers la RDC. Parce que toutes les statistiques sont presque fausses, étant donné que chacun entre avec son matériel dans un coin, dans un milieu ou dans une frontière qui n'est pas contrôlée. Donc, les mesures là relèvent de la souveraineté de tous les États du monde ne doivent pas permettre qu'ils soient des dépotoirs. Il faut que les gens comprennent que ma mission à la tête du ministère ici, c'est de réguler les importations aussi. On ne peut pas se mettre et commencer à se dire, mais il y a combien de tonnes de bière ou qui sont entrées en RDC? Il y a combien de tonnes de poissons qui sont entrées? Nous devons savoir qu'est-ce qui entre pour renseigner si cela a un impact sur notre économie, et c'est ma mission au regard de l'ordonnance fixant les attributions des ministères.
Alors, la réalisation est en train de me signaler que nous reste encore quelques minutes. Hein. On va prendre ce dernier auditeur de Kinshasa.
Alphonse Tefou, depuis la ville de province de Kinshasa. Veuillez poser ces questions au ministre du Commerce extérieur, Monsieur Julien Palou. Pourquoi la RDC importe ces articles qui sont économiquement rentables, mais fragilisent les investisseurs nationaux? Tige coton, tomate en boîte, tire-dent, sardine, brosse à dents, maxam, babouche la gomme, chinchard, le poulet, le jus, maïs, papier hygiénique et tant d'autres articles, quand bien même avec un investissement à moindre coût, on peut se produire ces articles localement et réduire les fuites des capitaux dollars à l'étranger. Quelles sont les industries déjà créées au pays depuis que son ministère existe? Quelle est la politique de son ministère pour aider l'État congolais à réduire la fuite des capitaux à l'étranger? Pourquoi il laisse toute l'économie congolaise entre les mains des étrangers? Quelle est la politique du gouvernement pour congoliser l'économie?
Alors, c'est plusieurs questions à la fois. Vous allez ramasser toutes ces questions. Hein, oui, nous réponses, monsieur le ministre.
Je voudrais répondre à monsieur Alphonse qui lui pose la question à laquelle il doit répondre. Beaucoup de gens confondent en fait le travail de l'État et le travail des privés. Ce n'est pas l'État qui construit les usines, ce n'est pas l'État qui construit les industries, ce n'est pas l'État qui construit les industries des tiges, des tomates, des babouches, des poulets. Ça, c'est le secteur privé. Donc, comme il fait le même constat que moi, qu'on importe les poulets, qu'on importe les tiges coton, qu'on importe les cure-dents, qu'on importe, j'ai salué d'ailleurs ici une dame qui a commencé la production de cure-dents ici à Kinshasa, que lui, s'il a des moyens, et que d'autres qui me suivent en ce moment, qui ont des moyens, s'investissent dans la production de tous ces biens de grande consommation, qu'il s'agisse des chinchards, qu'il s'agisse des poissons, qu'il s'agisse du riz, si ils me rassurent qu'ils ont la capacité de produire du riz et de satisfaire la consommation locale, s'ils me rassurent qu'ils ont la capacité de produire des tomates et satisfaire la demande locale, ils viennent vers moi, je prendrai une mesure d'interdiction, disons de restriction des importations de ces tomates pour protéger l'industrie locale. Mais maintenant, les gens me posent la question comme si c'est moi, représentant de l'État, qui doit construire une usine de tomates, une usine de coton, une usine de kirda. Non! Ça, c'est l'opérateur économique. S'il a des difficultés, qu'il s'adresse maintenant à l'État que je représente pour lui donner toutes les facilités nécessaires, soit d'accéder au code d'investissement, soit de considérer à des exonérations qui lui permettent d'amortir son investissement au départ. Donc, c'est en même temps une campagne de sensibilisation que j'ai fait pour le peuple congolais, lui dire que les gens sont dans d'autres secteurs, tout le monde est en politique, tout le monde veut être député, tout le monde veut être bourgmestre, tout le monde veut être conseiller des communes, alors que vous pouvez réunir vos capitaux et cibler une demande de consommation au niveau local, et si vous la satisfaisez, vous allez gagner un million. À Kinshasa, nous sommes près de 15 millions d'habitants. Mais si vous faites une industrie de tomates, une industrie de piments, une industrie de ceci, vous gagnez les 15 millions de consommateurs. Si pour chaque petit produit, vous gagnez seulement 0,5 $, comme on le dit dans le langage de l'Est, sur 15 millions d'habitants, ça vous fait 7 500 000 $. Donc les gens cherchent l'argent ailleurs, alors que l'argent est autour de nous. L'argent circule de nous, c'est le manager Saman qui disait, et dit, l'argent est autour de nous, mais nous ne le voyons pas. Donc, mon émission aussi étant pédagogique, j'invite et les jeunes et les entrepreneurs qui ont des petites capacités financières de pouvoir s'investir dans l'entrepreneuriat parce que le marché congolais est disponible. Il y a 100 millions de Congolais qui ont besoin de manger chaque jour. Pourquoi les gens sont dans l'immobilier? Pourquoi les gens sont dans d'autres choses que de chercher à nourrir, ne fût-ce que les Quinois et les autres populations qui sont dans les capitales?
En parlant de manger, monsieur le ministre, où est-ce qu'on en est avec ces véhicules qui transportaient des poissons à destination de la RDC arrêtés par l'Ouganda?
Oui, effectivement, j'ai évoqué la question. J'ai été avec les ministres ougandais des coopératives, du commerce et de l'industrie. J'ai précisé que c'est des véhicules qui provenaient de la Tanzanie, qui étaient en transit sur le territoire ougandais, mais l'Ouganda a violé les règles internationales en ouvrant ces véhicules sur son sol. Eh bien, le ministre avait promis qu'il va devoir saisir son gouvernement pour devoir obtenir libération. Nous avons mis en place un petit comité pour travailler sur la question, parce qu'il est inacceptable que des véhicules à transit traînent dans un pays alors qu'ils devaient aller jusqu'à destination. Donc c'est une question qui est prise en charge par et le ministère et la province du Nord Kivu, qui a envoyé d'ailleurs le vice-gouverneur à l'époque à Kasindi. Et donc nous attendons que la situation soit décantée pour nous permettre de devoir donner le message à la population.
Elle sera décantée quand? Vous n'avez aucune idée sur...
Bon, c'est ça, comme je l'ai dit,
ce sont
les autorités ougandaises qui détiennent en fait la clé pour décanter la situation. Nous les avons saisis officiellement, et même l'ambassadeur qui est ici à Kinshasa a promis de devoir rappeler cela au gouvernement pour nous rassurer que tous nos véhicules de poissons qui sont détenus sur le territoire ougandais arrive à destination, à savoir les territoires de Beni, les territoires de Lubero, la ville de Butembo, la ville de Beni.
Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, c'était un plaisir de vous recevoir dans ce dialogue entre Congolais spécial. Votre mot de la fin, vous avez un dernier mot à tous ces auditeurs qui étaient très très nombreux à nous suivre partout en RDC, même à l'étranger.
En conclusion, c'est dire que la RDC a gagné une bataille diplomatique contre certains pays. Le président de la République nous dit toujours, nous devons faire en sorte que les pays accueillent des grands événements pour que les gens viennent voir ce que nous sommes, ce que nous valons et quel type d'opportunités nous avons pour offrir au monde entier. Et donc, le forum AGOA, qui est cette loi américaine qui permet d'exporter vers les États-Unis, se tiendra à Kinshasa. Cela permettra aux opérateurs économiques américains de raconter les opérateurs économiques congolais, et ensemble ils vont définir quelles sont les filières qu'ils ont choisies pour devoir promouvoir les exportations vers les territoires américains. Il en sera ainsi pour le continent européen, il en sera ainsi pour d'autres espaces, afin que ce forum à Goa ou cette loi américaine nous permette de structurer vraiment notre économie. J'ai fait un appel aux opérateurs économiques congolais, désormais de considérer que le gouvernement leur crée un cadre, et c'est à eux de saisir cette opportunité pour devenir demain des exportateurs de tous les produits que j'ai cités ici et qui sont concernés par les échanges entre nous et les États-Unis.
Merci beaucoup, Julien Paluku. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute la grande équipe qui m'a accompagné dans la production et la réalisation de ce magazine, Guy Maté, Donna Madimba, Willem Lungiamba, Jean-Claude Nsiala, Jonathan Fonani, Clément Chimanga. Je n'oublie pas nos stagiaires qui sont avec nous, nos stagiaires qui sont venus de l'Académie des Beaux-Arts, Brian Batoupé, Jordi Bangala, Hermas Gonda et Isaac Bahati. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.